Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Graphite. Après Vibrathoes, vous écoutez tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite. Biotine, émission d'actualité scientifique. Je m'appelle Jean-Noël, je suis heureux de vous retrouver pour ce samedi. Nous allons parler de l'actualité scientifique avec pas mal de sujets qui nous concernent plus ou moins, mais en tout cas qui concernent un petit peu notre société moderne avec tous ces objets connectés qui nous entourent. Le 11 juin, aujourd'hui, pour l'éphéméride, eh bien en 1895, un brevet est attribué aux frères Charles et Franck Duryea, je ne sais même pas comment ça se prononce, Duryea. En tout cas, en 1895, ils ont créé la première automobile à essence aux États-Unis. 1895. Comme je ne sais pas comment on prononce leur nom, ça veut dire que leur nom n'est pas vraiment passé à la postérité. D-U-R-Y-E-A, Duryea, je pense, à voir. En tout cas, c'était en 1895. Naissance le 11 juin 1867 de Marie Fabry, Marie-Paul Auguste Charles. En fait, il y a Marie dans son prénom, mais c'est un homme, c'est un physicien français. Son œuvre est presque exclusivement consacrée à l'optique et en particulier à la spectroscopie, à la photométrie. Il est président d'honneur de la Société française de photographie dans les années 1930. Il est président de la Société française de physique en 1924. Et il a été également fait membre étranger de la Royal Society en 1931, Marie-Paul Auguste Charles Fabry. Décès le 11 juin 1937 de Reginald Mitchell, ingénieur aéronautique et designer industriel britannique. C'est le principal concepteur du Spitfire. Alors le Supermarine Spitfire, c'est l'un des chasseurs monoplaces les plus utilisés par la Royal Air Force et par les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Il donna lieu à une diversification et à une multiplicité de versions qui n'avaient jamais été atteintes auparavant dans l'histoire de l'aviation. Et il a des ailes de forme elliptique qui lui ont donné une apparence très reconnaissable. Leur section transversale mince lui a donné une vitesse vraiment impressionnante. Et donc ce Supermarine Spitfire a servi pendant toute la durée de la Seconde Guerre mondiale et avec toutes ses variantes, il a été de tous les combats. Il y a plus de 20 000 appareils qui ont été construits. Ils sont restés en service jusque dans les années 1950 et donc ça a été créé par Reginald Mitchell, qui est donc mort le 11 juin 1937, c'est-à-dire qu'il est mort, assez jeune, et il est mort à 42 ans, et il est mort avant d'avoir vu quelque part l'utilisation pendant cette Seconde Guerre mondiale de ce qu'il avait conçu, bien évidemment. Je vous disais, nos sociétés modernes et connectées ne sont peut-être pas toujours des sociétés sécurisées. C'est l'une des nouveautés de la version la plus récente du système d'exploitation Apple pour ses iPhones. C'est la géolocalisation de l'appareil. Même lorsqu'il est éteint, Apple a intégré cette fonction pour permettre de retrouver son iPhone égaré, même lorsqu'il est éteint ou alors à court de batterie. Et cela fonctionne pendant 24 heures. Et donc, du coup, c'est quelque part une bonne idée pour les étourdis. Toutefois, des chercheurs de l'université de Darmstadt, c'est en Allemagne, préviennent que cela rend le téléphone vulnérable à des attaques, même s'il est éteint. Pourquoi ? Tout simplement parce que si l'appareil peut être localisé, c'est que plusieurs composants fonctionnent encore. C'est justement une sorte de... d'un système qu'on appelle le mode low power mode, bien distinct du mode d'économie d'énergie. C'est un nouveau mode qui fait en sorte que certaines puces, comme par exemple le Bluetooth, restent actifs quand le téléphone s'éteint parce qu'il n'a pas assez de batterie ou parce qu'un utilisateur a décidé tout simplement de l'éteindre. Eh bien, ça continue à fonctionner quand même. C'est pas gourmand en énergie et ces puces, elles permettent donc de retrouver l'appareil. Mais aussi, selon des experts, eh bien, ça permet d'installer un logiciel malveillant à l'insu de l'utilisateur. Plus particulièrement, c'est la puce Bluetooth, justement, qui est vulnérable aux attaques. La raison, elle est simple, c'est que cette puce Bluetooth n'intègre aucune fonction de chiffrement. C'est une spécificité qui a permis aux chercheurs de pouvoir le pirater pour exécuter justement un genre de virus et pour pouvoir montrer un petit peu l'efficacité de ce qu'il préconisait. Alors, est-ce que cela signifie que dès demain, n'importe quel iPhone éteint pourra être piraté ? La réponse et non, car ce piratage exige quand même au préalable que le téléphone, et notamment l'iPhone, soit ce qu'on appelle jailbreaké. Forcément, ça limite les possibilités, mais ces chercheurs préviennent que l'on pourra assister à une recrudescence des piratages du niveau de Pegasus qui avait touché, on le sait, il y a quelque temps, des politiques, des journalistes, des diplomates. Et en combinant justement le système Pegasus avec un type de virus particulier, eh bien, il sera possible d'extraire des données d'un iPhone, même pendant qu'il est en veille. Sur les iPhones récents, on ne peut plus faire confiance aux puces sans fil pour s'éteindre après l'arrêt. Cela pose un nouveau modèle de menace. C'est ce qu'on explique justement dans le communiqué de cette université allemande. Ce mode basse consommation est un terrain d'attaque pertinent qui doit être pris en compte par des cibles importantes comme les journalistes, ou qui peut être instrumentalisé pour concevoir des logiciels malveillants sans fil fonctionnant sur des iPhones éteints. En clair, pour le grand public, donc pour vous et moi, cette menace, elle est minime. Il y a peu de chances justement qu'un hacker s'en prenne à notre téléphone, tant mieux. Mais en revanche, c'est une nouvelle vulnérabilité inquiétante pour les professionnels. Et sans doute qu'Apple va devoir réfléchir à un mode qui coupe véritablement toutes les puces du smartphone. Une sorte de mode avion encore plus évolué, bien évidemment. Mais voilà, même éteint, un iPhone peut être piraté. Que voulez-vous ? C'est ça la technologie moderne, c'est ça, c'est ce que je vous dis tellement souvent.
Moi, quand j'étais petit, j'avais mal. C'était l'état de mon esprit, je suis né malade. Sur l'échelle de Richter de la misère, malade, ça vaut bien 6. Quelques degrés en dessous de là où c'est gradué. Fou. Les autres. C'est pas moi, c'est les autres. Les autres. C'est pas moi, c'est les autres. Les autres. C'est pas moi, c'est les autres. Les autres. J'étais voleur et avant d'aller voler, je priais. Je demandais à Dieu de ne pas me faire attraper. Je lui demandais que la pêche soit bonne. Qu'à la fin de la journée, le liquide déborde de mes poches. Bien souvent, j'ai failli me noyer. J'ai été à sec aussi souvent. Quand je croisais papa le matin, aller travailler avec sa 102 bleue. En rentrant le matin de soirée, je me disais... C'est un bonhomme, mon vieux. Ensuite, je me faufilais dans mes couvertures et je dormais toute la journée. Le style vampire, dormir la journée et rôder une fois le soleil couché. Le genre prédateur à l'envers, le genre qui, à la vue d'un poulet, meurt de peur. Je ne me suis jamais fait prendre ici. Et si j'avais été pris au keuf, j'aurais dit Les autres. C'est pas moi, c'est les autres. Les autres. C'est pas moi, c'est les autres. Les autres. C'est pas moi, c'est les autres. Les autres. J'étais beau parleur et souriais aux filles en jean avec des grosses ceintures. Celles qui aiment bien l'odeur que dégagent les gars qui ont la réputation d'être des ordures. Le genre a juré sur la vie de sa mère dès qu'il ouvre la bouche. Rêve de BMW pour asseoir à la place du mort celle qui couche. Dans mon monde, un mec comme moi, c'est le top. J'aurais été une fille, on me traiterait de sale. Quand je croisais ma sœur avec ses copines dans le quartier, moi qui allais en soirée, je lui disais « Rentre à la baraque, va faire à bouffer !» Ensuite, j'allais rejoindre mes copines, celles qui me faisaient bien délirer. Celles qui, comme moi, avaient un père, une mère, peut-être bien des frères et sœurs, qui sait, mais moi, du genre beau parleur à l'endroit, sans foi ni loi, mais c'était pas moi le chien, mais les autres. C'est pas moi, c'est les autres. Les autres. C'est pas moi, c'est les autres. Les autres. C'est pas moi, c'est les autres. Les autres. Et puis du jour au lendemain, j'ai viré prêcheur, promettant des flammes aux pécheurs et des femmes aux bons adorateurs. Comme si Dieu avait besoin de ça pour mériter qu'on l'aime. Mais moi pour que les autres m'aiment, moi j'en ai dit des choses pas belles. Et j'en ai accepté aussi, on m'a dit, t'es noir, tu veux te marier avec elle, mais t'es noir. Les autres, ils disaient comme ça qu'elle était trop bien pour moi. Donc moi je faisais de la peine à voir, moi je continuais ma parodie, mon escroquerie spirituelle. Sauf que je me carottais moi-même. J'étais devenu un mensonge sur pattes qui saoule grave et qui sait même pas ce qu'il dit, qui voit même pas que c'est un malade et qui dit comme ça tout le temps, il dit les autres. C'est pas moi, c'est les autres. C'est pas moi, c'est les autres. Et je vous dis monsieur, quand je pense à tout ça, monsieur, je pleure. Je... je pleure.
Les autres, c'était Abdelmalik sur l'antenne de Graphite. Un petit air de Brel dans cette chanson, bien évidemment. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique. On va parler des cyanobactéries. Ça intéresse les chercheurs parce qu'elles sont capables de fixer le carbone et l'azote. Et puis, elles sont aussi aptes à faire de la photosynthèse. Et parmi ces cyanobactéries, il y a Cynecocystis, qui est l'une d'entre elles. En fait, les cyanobactéries, ce sont des algues bleues. Alors, algues entre guillemets, parce que dans le fond, c'est pas réellement une algue, mais en tout cas, on les assimile à des algues bleues, bleu cyano, donc le couleur cyan, le couleur bleue. Elles sont très répandues, elles ne sont pas toxiques, et des chercheurs de l'université de Cambridge, au Royaume-Uni, viennent de réussir, grâce justement à ces cyanobactéries, avec de l'eau et un peu de lumière du soleil, eh bien, ils ont été capables d'alimenter un microprocesseur en continu pendant plusieurs mois. Et c'est pas fini, et c'est totalement révolutionnaire. Le système qu'ils ont conçu n'est pas plus grand qu'une petite pile ces piles cylindriques que l'on connaît, hein, les petites piles AA. Il est fait justement ce système de matériaux courants qui n'est pas coûteux et qui sont largement recyclables. En fait, ça coche toutes les cases, c'est génial. Et contrairement à une batterie, eh bien, ce système ne se décharge pas, puisque les algues bleues qu'il renferme récoltent de façon continue la lumière du soleil par photosynthèse pour générer un courant, et le tout avec le concours d'une simple électrode en aluminium. Les chercheurs observent que même lorsque le soleil est couché, eh bien, ces algues bleues semblent continuer à transformer une partie de leur nourriture, générant ainsi un courant électrique même dans l'obscurité, un courant qui reste toutefois modeste dans l'état actuel des travaux. Mais de tels systèmes à base d'algues bleues devraient suffire à alimenter l'Internet des objets connectés, tous ces petits objets connectés, par exemple des montres intelligentes, des capteurs de température, eh bien ils ont besoin que d'une faible quantité d'énergie pour fonctionner. Et du coup, ce système pourrait être totalement suffisant pour eux. Les experts estiment qu'il pourrait être des milliards sur le marché d'ici 2035, donc d'ici une bonne dizaine d'années, on pourrait voir multiplier ces batteries, enfin c'est même pas des batteries, mais en tout cas c'est des systèmes qui vont pouvoir générer l'électricité grâce à ces algues bleues et pouvoir les alimenter à l'aide de batteries lithium-ion, même si elles sont chargées par l'énergie solaire, je vais y arriver. Ça pourrait finir par coûter cher, et donc du coup, là on a un système qui est pas coûteux, qui est avec des matériaux courants facilement recyclables. Ça coche des cases vraiment intéressantes, et donc du coup on pourrait bientôt voir ces algues bleues pour alimenter notamment nos montres connectées. Écoutez, on verra ça bientôt, affaire à suivre, mais vous saurez que vous l'aurez écouté pour la première fois dans cette émission Biotine en 2022. Et pendant ce temps-là, eh bien, l'Inde, elle, teste un moteur pour les vols habités. Les responsables politiques européens tergiversent un petit peu sur l'intérêt de financer un programme de vols habités autonomes. Eh bien, l'Inde devrait devenir la quatrième puissance spatiale capable d'envoyer des humains dans l'espace. C'est une jolie performance technologique pour un État qui n'a pas la même puissance financière que l'Europe, qui accuse un retard qui tend à se résorber dans quelques domaines technologiques clés. Alors, initialement, l'agence spatiale indienne prévoyait d'envoyer un ou deux astronautes indiens à l'occasion du 75e anniversaire de l'indépendance indienne, donc c'était cette année en 2022. Mais bien sûr, la crise du Covid-19 a contraint le pays à reporter ce vol inaugural à 2024. Celui-ci sera précédé de deux vols inhabités prévus l'année prochaine qui vont emporter chacun un robot humanoïde équipé de capteurs et la capsule rejoindra une orbite de 400 km pour un vol de 7 jours avant d'amerrir dans la mer d'Arabie au large de Ahmedabad. Alors, c'est bien sûr bien moins médiatisé que la NASA, que l'Agence spatiale européenne ou alors les agences spatiales de la Russie et de la Chine. Il n'empêche que l'Agence spatiale indienne poursuit son programme de vols habités initié il y a déjà plusieurs années et on en avait parlé dans notre émission. Gaganayaan, c'est le nom de ce programme qui a déjà réalisé plusieurs essais, dont le vol suborbital avec rentrée atmosphérique d'une capsule prototype où il n'y avait pas d'astronaute. C'était en 2014. 4 ans plus tard, il y avait un essai d'une tour de sauvetage avec une maquette d'une capsule de 12 tonnes. Il y avait aussi le vol d'une capsule expérimentale qui a duré 12 jours en orbite, c'était en 2007. Donc il y a quand même eu déjà des avancées au niveau de l'agence spatiale indienne depuis plusieurs années. Et donc il y a quelques semaines, cette agence spatiale a réalisé avec succès un essai statique d'un propulseur d'appoint pour ce fameux programme Gaganayaan. Ce booster testait la version à usage vol habité d'un propulseur qui va équiper un lanceur prochainement et donc ils ont fait des essais plutôt concluants qui a duré 133 secondes. C'est la durée de fonctionnement du premier des 3 étages justement de ce lanceur. Alors plutôt que de développer un lanceur entièrement nouveau et spécifiquement dédié aux vols habités, eh bien l'Inde a préféré développer une version qualifiée spécifique pour les vols habités, un lanceur mis en service en 2017 qui est capable donc de lancer 10 tonnes en orbite basse, 4 tonnes sur une orbite de transfert géostationnaire, ce qui est quand même assez intéressant. Il a notamment lancé différentes missions lunaires, ce sont les missions lunaires Chandrayaan, on en avait déjà parlé dans cette émission bien sûr, et bien il devrait, ce lanceur, justement permettre le lancement d'une sonde à destination de Vénus et une deuxième mission à destination de Mars. Donc voilà, l'Inde pendant ce temps-là à l'avance et elle teste donc un moteur pour les vols habités. On ne parle pas souvent de l'Inde quand on parle d'espace dans cette émission et tout simplement parce que d'un point de vue médiatique, l'Inde est plutôt discrète, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne fait rien, la preuve, vous voyez, avec ces différents communiqués qui nous montrent qu'il va falloir compter avec l'Inde bientôt, justement, pour la conquête spatiale. Et c'est tant mieux, c'est ça qui est intéressant sur cette antenne de Graphite, c'est qu'on attend avec impatience l'avenir, et je vous dis, cette décennie 2020 va véritablement être géniale au niveau spatial, bien sûr. une reprise d'I'm So Excited, le tigre sur l'antenne de Graphite. Tous les samedis entre 12h et 13h, nous parlons de l'actualité scientifique. Aujourd'hui, on va parler un peu d'espace. Je vous ai parlé de l'Inde. Là, je vais vous parler de la Chine, parce que la Chine aussi, elle n'attend pas, elle envisage d'étoffer son programme spatial et elle va décider dans les tout prochains jours, en tout cas, ça n'a pas encore été communiqué, de donner son feu vert à la réalisation d'un observatoire spatial qui va être dédié à la recherche d'exoplanètes ou en tout cas de planètes un petit peu semblables à la Terre. Ce projet s'appelle Earth 2.0. Le but de cet observatoire, c'est de découvrir des planètes semblables à la Terre, que ça soit semblable en taille, en masse, en constitution, et surtout qui va évoluer dans ce qu'on appelle une zone d'habitabilité de leur étoile. Bref, ça veut dire que ces planètes, on suppose qu'elles auraient les conditions propices pour que de l'eau à l'état liquide puisse exister, et elles seraient donc habitables, voire habitées, et du coup c'est pour ça qu'on les appelle Terre 2.0, ou alors Earth en anglais 2.0, qui est donc le nom de ce projet chinois. Alors il y a plus de 5000 exoplanètes qui ont été mises au jour depuis la découverte de la première d'entre elles, c'était en octobre 1995, mais aujourd'hui il n'y en a aucune qui ne correspond à la définition justement d'une Terre 2.0, parce que malgré les progrès de la technologie et des techniques d'observation qui se sont améliorées, avec les télescopes actuels, il est extrêmement difficile de trouver de petites planètes qui sont semblables à la Terre. Pour l'instant, les seules planètes telluriques qui ont été découvertes et qui évoluent justement dans des zones d'habitabilité, elles sont plus grandes que la Terre et donc les chances d'y découvrir de la vie, elles sont tout de même assez réduites. Alors, ce projet Earth 2.0, c'est un satellite qui va utiliser 7 petits télescopes qui pourraient être lancés en 2026, c'est-à-dire seulement 4 ans après sa sélection, ce qui est quand même assez intéressant. Il présente de nombreuses similitudes avec une autre mission qui s'appelle Plateau, c'est la mission de l'Agence spatiale européenne, dont le lancement est également prévu en 2026. Alors en 2026, il va y avoir, un embouteillage de lanceurs. Mais si Earth 2.0 est composé de 7 télescopes, la mission européenne, elle, en utilise 34. Alors pour Jean Schneider, astrophysicien, directeur de recherche émérite au CNRS, il explique que ce planning est très ambitieux comparativement à Plateau, donc le projet européen, parce que c'est quand même pas du tout le même niveau de technique ou en tout cas d'implication, dit-il. Il n'empêche, l'observatoire chinois semble techniquement moins complexe que Plateau, mais tout de même, le réaliser en seulement 4 années, c'est très ambitieux. Donc on verra bien sûr si cette promesse va être tenue, bien évidemment. Tant que le projet n'a pas été approuvé par l'Académie des sciences chinoises qui le porte, les informations, elles sont plutôt succinctes. Alors ce que l'on sait, c'est qu'il devrait fonctionner pendant au moins 4 ans. 6 de ces 7 télescopes pointeront en direction des constellations du Cygne et de la Lyre, c'est-à-dire la même région du ciel observé pendant 10 ans, de 2009 à 2018, par le télescope Kepler de la NASA, qui avait parmi ses objectifs celui de découvrir quelques-unes de ces fameuses Terres 2.0. Alors le choix d'observer cette région s'explique par la très grande quantité de données qui avait été acquise par Kepler à l'époque. Le 7e télescope du satellite cherchera lui des planètes par ce qu'on appelle le microlensing. Il s'agit d'une technique d'observation nouvelle qui a été lancée, qui va être lancée l'année prochaine. Et les Chinois ne seront pas les premiers à l'utiliser, mais en tout cas, ils pourront un petit peu avoir de recul sur l'exploitation de cette technologie. Cette recherche de planètes par microlensing va se focaliser principalement sur ce qu'on appelle des planètes dites vagabondes, c'est-à-dire elles errent un petit peu comme ça dans l'espace, sans tourner autour d'une étoile en particulier. Alors, pour détecter ces exoplanètes, le projet Earth 2.0 utilise la méthode dite du transit planétaire, qui repose sur la mesure des faibles variations périodiques de la luminosité d'une étoile lorsqu'une planète passe devant elle. Alors, il est prévu qu'il observe plus d'1 200 000 étoiles, dont des astres plus sombres et plus lointains que le satellite de la NASA qui étudie ces étoiles brillantes près de la Terre. On pense savoir maintenant que des exoplanètes où de l'eau liquide pourrait expliquer et qui auraient une taille 1 à 2 fois plus grande que celui de la Terre, eh bien, on pense que c'est ce qu'on appelle ces exotères se trouvent en grand nombre dans la Voie lactée. Alors, comme elles sont ni trop proches ni trop éloignées de leur Soleil, c'est uniquement dans la zone d'habitabilité que l'on veut justement avoir des informations. Alors, et donc, du coup, sans surprise, l'observatoire qui va être utilisé par les Chinois va surpasser la mission Kepler qui a déjà plus de 10 ans en capacité d'observation du ciel. C'est une avancée qui s'explique par les progrès bien sûr de la technologie et de la science parce que Kepler, la conception date des années 2000, donc on n'est pas du tout dans la même maturité des technologies qui sont utilisées. Mais malgré l'échec de cette mission Kepler à découvrir des terres 2.0, eh bien, les Chinois restent encore assez optimistes et sont convaincus qu'ils pourraient en découvrir une douzaine pendant les 4 années de la durée de vie de leur observatoire. Alors, ce serait évidemment une performance remarquable, mais bien en deçà des promesses de la mission européenne, parce qu'on s'attend à ce que Plato découvre, c'est la mission européenne, Plato, environ quelques milliers de planètes, dont 1 millier qui pourraient être semblables à la Terre. Donc ça va être un petit peu une concurrence, mais en tout cas, pour le bien de la science, parce qu'on va encore avoir des informations, des données qu'on va pouvoir exploiter, qui vont nous apporter quand même une connaissance de notre environnement assez intéressant. Alors, la question, c'est de savoir si ces fameuses terres 2.0 qu'on cherche à découvrir, est-ce qu'elles sont habitées? Ça, bien sûr, c'est une autre paire de manches. Il serait possible de détecter une forme de vie sur ces planètes en utilisant la technique de l'analyse de la signature spectrale de l'exoplanète observée. C'est-à-dire qu'on pourrait essayer d'avoir, par ricochet, des informations si on considère qu'il y a des éléments, notamment des éléments chimiques, qui pourraient laisser à penser que il y aurait une vie sur les planètes que l'on vient de découvrir. Bon, on en est encore très très loin, bien évidemment. C'est une promesse que l'on souhaite tenir, bien sûr. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans cet article, c'est de voir que, alors tout à l'heure, on voyait que l'Inde avance, la Chine également. Et ce qui est intéressant là, c'est que la Chine se met quand même des objectifs assez ambitieux. Et on va voir, je vous l'ai dit, cette décennie 2020 va être fascinante parce qu'on saura dans les prochaines années, de 2020. C'est quand même presque demain, on va dire. On va avoir des informations de plus en plus intéressantes sur la découverte de ces nouvelles terres, bien sûr. C'est génial, c'est ça la science. Je vous le dis tous les jours, mais vous ne me croyez pas. C'est quand même fort dommage. On va encore écouter un titre et on va se poser la question de savoir pourquoi. Parce qu'on arrive bientôt à l'été, on va se badigeonner de crème solaire sur les plages. On va se demander pourquoi la crème solaire, elle fait périr les coraux et comment y remédier. On voit cela tout de suite après ce titre sur l'antenne de Graphite.
Came with the same type game, the type of girl giving out the fake cell phone, the name big fame, big she fame. Like catching big things, jewel ship, money clip, phone flip the 6 range, and seen her on the ass, spotted her more than once, ass so fat that you can see her from the front, she spot me like paparazzi, shot me a glance, and that cat woman stands with the fat booty pants, hot damn, what's your name love, where you came from, neck and wrist laced up, very little makeup, the swims at the Reebok gym, tone your frame up, a sugar and spice, the only thing that you made up, I tried to play it low key, but couldn't keep it down, asked her to dance, and she was like, yo, I'm leaving now, an hour later, Sam's from Jamaica, she sipping Chris straight up, skanking while in the waist up, seen two, my fam throwing the jam, Fareed is on the stand, big things is in the plan, the brother Big Moon makes space for me to move in here, yo, this my man Most, baby, let me introduce, I turn around, you was the same pretty bird who I had priorly observed, trying to play me for the herd,
Shocked to sell, she couldn't get it together. I just played along and pretended I never met her. How you feeling? No, I'm fine. My name is Mons, I'm Sharice. I heard so much good about you. It's nice to finally meet. He moved to the booth, reserved the crew, especially your honey love. Ended up sitting directly next to me. I'm tight polite, but now I'm looking at her skeptically. His baby girl got all the right weaponry. Designer fabric, shoes and accessories. Chinky eyes, sweet voice, want me mentally. Be conversating, made her laugh. Yeah, you know me, bro. Even though I know the steelo, she wild, sweet, yo. I'm about to murk, I say peace to the family. She hop up like, how you gonna leave before you dance with me? Dance with me.
She blew my whole head with that dude. I was like, what?
I played it low though. I was like, yeah, all right, come on then, let's go.
This is mad. This is so sick.
I'm telling you, honey was so blazing. She was just, yo, she was like Jane Kennedy, word walk to my mother, man. She was that L, man. She take it to the dance floor and she start whispering to me. Yo, let me apologize for the other night. I know it wasn't right, but baby, you know what it's like. Some brothers don't be coming right. I understand, I'm feeling you. Besides, can I have a dance? Ain't really that original. We laughed about it, traced the arms across my shoulder blades. They playing lover's rock, I got to fold the fingers on the waist. He in my butt up like the Arizona summer. Song finished and she whispered, honey, let's exchange numbers.
Scene 3.
Weeks of dating, late night conversation. In the crib, heart racing, trying to be cool and patient. She touched on my eyelids, the room fell silent. She walked away smiling, singing Gregory Isaacs, like, if I don't, showing me a tan line and a tattoo, playing Sade, sweetest taboo, burning candles, all my other plans got canceled, man, I smash it like an Idaho potato, she called me at my J.O., come now, I can't say no, Jensen tree trunks, rocking a P-funk, cocking her knees up, champion lover, not ease up, 3 months, she call, I feel I'm running a fever, 6 months, I'm telling her I desperately need her, 9 months, blue light symptoms with shorty not around. I need more than to knock it down. I'm really trying to lock it down. Midnight, we hook up and go at it. Burn a stogie, let her know, sweetheart, I got to have it. She telling me commitment is something she can't manage. Wake up the next morning, she gone like it was magic. Oh, damn it. This on Harrison, full frantic. My number one's an answer by my fly Taurus Enchantress. Next week, who hit me up? I saw Sharice at the kitty club with some banging ass Asian playing. Lay it down and lick me up. What?
Mos Def sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informés de l'actualité scientifique. Bientôt les vacances, bientôt le soleil, enfin bientôt le soleil est déjà là, mais en tout cas bientôt les crèmes solaires. C'est notamment l'oxybenzone, c'est un composé chimique organique qui a cette propriété de filtrer les ultraviolets qui sont responsables non seulement du bronzage, mais aussi du vieillissement de la peau et aussi des cancers. Et c'est pourquoi on le trouve dans de nombreuses crèmes solaires, cet oxybenzone. L'ennui, c'est qu'il endommage les coraux, bien moins que plusieurs autres facteurs, ok, mais tout de même, et les crèmes solaires qui en contiennent ont d'ailleurs été interdites dans les îles Vierges des États-Unis, par exemple, ou alors à Hawaï. Mais pour les scientifiques, ce n'était pas suffisant. Ils voulaient comprendre par quel mécanisme cet oxybenzone nuit aux coraux et aux anémones. C'est ce que des chercheurs de l'université de Stanford aux États-Unis expliquent aujourd'hui dans un article. Et surprise, l'oxybenzone nous protège, nous, des rayonnements du soleil. Eh bien, le composé fait tout l'inverse pour les coraux. Il s'avère en effet que les coraux et les anémones vont métaboliser cet oxybenzone de telle manière que la substance qui en résulte forme des radicaux nocifs en cas d'exposition au soleil. C'est quand même assez fascinant, c'est-à-dire que eux, du coup, ça va faire quelque part l'effet inverse. Et uniquement dans ce cas, des radicaux qui sont d'autant plus agressifs qu'avec le réchauffement des eaux, eh bien, les coraux ont tendance à se défaire des algues symbiotiques qui sont capables de les protéger des toxines produites à partir de cet oxybenzone. Les chercheurs craignent désormais que ce composé visé par la critique depuis plusieurs années ne soit finalement pas le seul à mettre en péril la survie des coraux. Il y a d'autres ingrédients dans les crèmes solaires qui se présentent en effet avec des structures chimiques un peu similaires et qui pourraient donc former également des métabolites phototoxiques, donc c'est-à-dire qui deviennent toxiques en présence de la lumière. Les protections solaires à base de métaux comme le zinc ou le titane, dont le fonctionnement est fondamentalement différent, pourraient être plus sûres pour les coraux, mais les chercheurs préfèrent approfondir pour l'instant la question avant de pouvoir conclure. Mais donc voilà, la crème solaire fait périr les coraux. Comment y remédier ? Il y a quelques pistes, mais pour l'instant, c'est assez, assez compliqué, ou en tout cas, on sent qu'il y a une difficulté pour comprendre précisément ce qu'il en est ici. On va écouter un petit titre en attendant de pouvoir réparer tout ça, ce petit bug technique. Et puis, on va continuer à développer l'actualité scientifique, pardon, je bafouille un peu, et on va parler d'été, c'est-à-dire qu'on va parler moustiques. Ça va être le prochain sujet dans cette émission. À tout de suite sur l'antenne de Graphite. Big Mouth, c'était The Smiths sur l'antenne de Graphite. Piqûre de moustique, on sait, c'est agaçant, ça gratte. Mais dans certaines régions du monde, c'est bien pire que ça, on le sait très bien. Les scientifiques appellent le moustique l'Aedes aegypti, une espèce particulière de moustique qui est aujourd'hui considérée comme le principal vecteur de la dengue, du virus Zika, pardon, du chikungunya, de la fièvre jaune. Et donc on comprend pourquoi les scientifiques cherchent des solutions qui pourraient nous éviter la piqûre. L'ennui, c'est que de plus, ce moustique en particulier a développé une tendance à piquer presque exclusivement les humains. Alors, est-ce que c'est à dire qu'il sait distinguer l'odeur d'un humain de celle d'un autre mammifère ? Eh bien, il semblerait, en tout cas, après des années d'efforts, des chercheurs de l'université de Princeton aux États-Unis pensent avoir enfin compris comment, grâce à des images très haute résolution du cerveau des moustiques, on a pu trouver cette réponse. Et cela n'a pas été simple. Des scientifiques de différents horizons se sont mobilisés. Les chercheurs ont d'abord dû concevoir des moustiques génétiquement modifiés dont le cerveau s'illumine lorsqu'il est actif. Je trouve ça extraordinaire, je dirais. On va avoir des moustiques avec un cerveau qui s'illumine quand le cerveau est en fonctionnement. très bien. Ça, c'était 2 années de travail quand même, mine de rien. Et ensuite, ils ont dû faire sentir des odeurs humaines, récupérées en prenant garde à ne pas les contaminer avec les odeurs des fibres de nos vêtements, et des odeurs animales, récupérées avec bien sûr les plus grandes précautions, à partir notamment de poils qui avaient été prélevés sur des rats, des moutons, des cobayes, même des chiens, dans l'espoir d'observer des différences de réaction chez ces moustiques. Et là encore, 2 années de travail pour mettre au point un système qui diffuse ces odeurs de façon efficace. Donc du temps encore pour construire un système d'imagerie adapté à l'étude du cerveau des moustiques. Mais aujourd'hui, eh bien, tous ces efforts et toutes ces années, ça semble quand même aujourd'hui récompensé. Alors, pour bien comprendre, l'odeur des mammifères et donc l'odeur de l'homme, ces odeurs sont faites de dizaines de composés différents. C'est un mélange complexe. Et pour distinguer l'odeur humaine de celle des animaux, les scientifiques pensaient que les moustiques devaient avoir développé un mécanisme sophistiqué. C'est pour ça qu'ils ont voulu un petit peu fouiller dans leur cerveau. Eh bien, surprise, le moustique profite en réalité d'un mécanisme étonnamment simple pour cibler ses proies sur les 60 centres nerveux dont disposent les moustiques. Seulement 2 sont impliqués. Le premier agit comme un lanceur d'alerte qui va signaler les odeurs à proximité, peu importe lesquelles. Et le second, il est en charge un petit peu de confirmer ou non, de dire qu'il s'agit d'une odeur humaine. Donc en fait, il n'y a que 2 centres nerveux qui sont concernés. Et c'est un petit peu la surprise de cette étude. Et du coup, ils ont, se disent que ça pourrait justement permettre d'avoir des idées pour pouvoir essayer de comprendre comment on pourrait mettre en place des systèmes pouvant un petit peu les piéger. Et on va se baser sur les odeurs qui vont intéresser ces moustiques. Il y a 2 composés de notre odeur qui semblent intéresser les moustiques et les chercheurs sont aussi parvenus à les identifier. Ces 2 composés, c'est le décanal et l'indécanal. Et donc du coup, ils ont déjà breveté un espèce de mélange qui contient du décanal et qui pourrait conduire justement à des appâts qui vont attirer les moustiques vers des pièges mortels ou alors des répulsifs qui vont interrompre son signal. En tout cas, on essaye de trouver des solutions. Enfin, je veux dire, l'épidémie, enfin pas l'épidémie, la propagation des moustiques est un véritable fléau. Il y a déjà des années dans cette émission qu'on parle des moustiques et là, on arrive à comprendre un petit peu comment et par quel biais ils arrivent à identifier ces odeurs. Et donc là, on est assez surpris par le fait que, du coup, il n'y a finalement pas un dispositif si sophistiqué que ça dans leur cerveau pour capter un petit peu ces odeurs. Parallèlement à cet article, il y en a un deuxième qui est paru à peu près en même temps. C'est d'autres expériences qui ont été menées, notamment par l'université de Washington, qui explique... Jeffrey Reffel, qui est professeur de biologie à l'université de Washington, explique: j'ai l'habitude de dire qu'il y a 3 signaux majeurs qui attirent les moustiques, la respiration, la transpiration et la température de la peau. Et donc dans cette étude, nous avons identifié un 4e signal, c'est ce qu'il explique. Dans leurs expériences, donc Jeffrey Reffel et ses collègues ont suivi la trajectoire de vol 1 million de moustiques femelles, les seules qui sont à piquer pour nourrir leurs œufs, et ils ont suivi cette trajectoire dans un environnement contrôlé, parce qu'il s'agit d'une chambre de test longue de 2 mètres et l'insecte a le choix entre 2 cibles qui sont colorées. Les scientifiques ont suivi la trajectoire de l'insecte grâce à 16 caméras et à un système un petit peu de tracking 3D. Alors comment ça se passe ? Ils ont commencé par envoyer du dioxyde de carbone, qui est un gaz qui n'a pas d'odeur pour l'humain, mais qui est très appétissant pour le moustique. Puis, grâce à un système de caméra, eh bien, les scientifiques ont pu observer vers quelle cible colorée les insectes se dirigeaient en premier. Et il se trouve que les insectes préfèrent le rouge, l'orange et le noir, alors que finalement le blanc, le vert, le violet les laissaient totalement indifférents. Ainsi, pour les moustiques, la couleur rouge, elle serait la promesse, bien sûr, d'avoir du sang, donc d'avoir un bon repas sanguin. La couleur rouge n'est pas que présente sur les habits, elle est aussi, bien sûr, sur la peau. La couleur de peau n'a pas d'importance. Nous émettons tous une forte signature rouge. Et donc, filtrer ces couleurs attractives sur notre peau ou éviter de porter des vêtements de ces couleurs pourrait être un autre moyen de prévention des piqûres de moustiques, c'est ce qu'explique le professeur Riffel. Alors, cette préférence pour le rouge est inscrite dans les gènes du moustique. Des insectes mutés par plusieurs gènes sont devenus indifférents à ce fameux stimulus de la couleur rouge-orangé. Cela suggère aussi que les observations faites ne sont valables que pour l'espèce en question que j'évoquais tout à l'heure, l'Aedes aegypti. Mais il y a d'autres moustiques qui existent et qui pourraient préférer d'autres longueurs d'onde, donc en clair, d'autres couleurs. Donc du coup, c'est pas encore totalement convaincant à 100%. Il n'empêche, quand un moustique cherche à se nourrir, il est d'abord attiré par l'odeur avant de repérer visuellement son restaurant préféré par une couleur spécifique. Mais donc voilà, il y a deux articles un petit peu simultanés de ces deux recherches qui avancent sur les moustiques. C'est très souvent qu'on parle des moustiques dans cette émission, ça veut dire que la recherche scientifique internationale avance dans ce domaine-là, même si pour l'instant encore, on n'a pas trouvé totalement de solution miracle. Allez, on écoute un dernier titre dans cette émission et on se quittera juste après pour Biotine, l'émission sur l'antenne de Graphite. I Wanna Be Adored, The Stone Roses sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informés de l'actualité. Vous êtes peut-être en train de déjeuner. Dans ces cas-là, je vous souhaite un bon appétit. Quelle chance vous avez de déjeuner pendant que je travaille. Et peut-être que vous utilisez un robot cuiseur qui sont des appareils finalement assez simples qui se contentent de cuisiner des ingrédients déjà préparés. Eh bien, à l'avenir, les robots seront capables de créer un plat en préparant et en dosant eux-mêmes les ingrédients. En plus d'un certain nombre de manipulations physiques complexes, eh bien, les robots devront apprendre aussi une tâche essentielle en cuisine, celui de goûter un plat, bien évidemment. Dans un article publié dans la revue Frontiers in Robotics, des chercheurs de l'université de Cambridge travaillent sur ce point. Ils travaillent sur des robots cuisiniers qui vont goûter nos plats. Ils avaient déjà créé un robot capable de cuisiner des omelettes. Eh bien, ils lui ont ajouté la capacité d'évaluer la teneur en sel d'un plat à l'aide d'une sonde de conductivité. Le robot a évalué un plat d'œufs brouillés avec des tomates et la première étape a été de tester le plat en plaçant la sonde à différents endroits afin de goûter tous les différents éléments. Ceci diffère des systèmes existants qui testent des échantillons homogénéisés, bien évidemment. Alors toutefois, lorsque l'on mâche les aliments, eh bien, la sensation de salinité, elle varie bien évidemment. Les chercheurs ont donc passé le plat au mixeur pour justement simuler le principe de la mastication. Puis le robot a de nouveau utilisé la sonde. Ils ont comparé différents plats avec différentes teneurs en sel et à trois stades de la mastication. Et ce robot a eu les meilleurs résultats en testant deux stades du plat avant et après être passé au blender. Au blender, son score est passé de 0,55 à 0,93 en testant ces deux étapes. Donc le prototype, il fonctionne, c'est pas encore totalement performant, hein, parce qu'il est à un stade de démonstration de faisabilité, comme on le dit, c'est-à-dire que le prototype montre qu'on arrive à une solution qui va être performante. Maintenant, il faut quand même un petit peu essayer de mettre en place cela d'une façon un peu plus efficace et peut-être aussi un petit peu moins coûteuse pour avoir ce robot cuisinier capable d'adapter le plat au palais de chacun. C'est vrai que ça peut être sympa. Je trouve ça formidable. C'est-à-dire que maintenant, on n'aura plus rien à faire. Je veux dire, si à la rigueur, s'ils pouvaient manger à notre place, on gagnerait du temps et on fera de choses. C'est vrai, on perd un temps fou à déjeuner, un temps fou à préparer les plats. Enfin, ça devient compliqué. Eh bien non, maintenant, tout va se faire par des robots. Je trouve ça formidable. Voilà l'avenir qui nous attend. Je vous souhaite un bon appétit. On se retrouve samedi prochain. On sera, ça sera déjà la dernière de cette saison. Ça passe vite, mais on ne fera pas du tout de best-of. En général, pour la dernière de l'année, je fais toujours un best-of, mais comme il y a encore pas mal d'articles que je n'ai pas eu le temps d'évoquer au cours de ces différentes émissions depuis septembre, eh bien du coup, ce sera encore des articles totalement inédits que je vous proposerai la semaine prochaine dans cette émission de Biotine sur l'antenne de Graphite. Graphite sur le 94.9 pour la bande FM, graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet, bien sûr, avec la possibilité de pouvoir écouter les podcasts où que vous soyez, parce que toutes les émissions de Graphite sont accessibles en podcast sur graphite.net. Je vais aller manger, ça va me faire du bien. Et on se retrouve donc samedi prochain, 12h, pour la dernière émission de cette saison. Je vous souhaite une bonne journée et vous restez fidèles, bien sûr, à l'ensemble des émissions de Graphite. À bientôt, au revoir.